Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bienvenue à la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Comme chaque semaine, la petite demi-heure des spectacles qui ont lieu à Bruxelles. L'émission sera rediffusée le jeudi dès 13h30. Alors au menu ce soir avec Nicolas qui est à la technique et à la critique. Hello Nicolas.
Salut.
On aura 41 reprises de Transquinquennale au Théâtre Varia. Une reprise enfin, ça a été créé au Kunsten Festival des Arts, hein. Donc c'est une création ici au Varia. Au ministre intègre un texte de Victor Hugo mis en scène sobrement par Frédéric Dussen qui avait été donné au Théâtre de la Ville, qui est repris au Théâtre de la Ville. On ira faire un tour d'une création au Rich Clair, double création danse du chorégraphe Nono Battesti. Et on vous donnera quelques bons plans de cette semaine, de chouettes spectacles, en fait de bonnes signatures à choper du côté du KVS, du côté des Beaux-Arts et du côté de la Balsamine. Mais là, je me retourne vers Nicolas. Nicolas, 41 de Transquinquennale, du collectif qui crée des spectacles généralement très singuliers.
Mmh. 41 comme le 41e spectacle évidemment que le collectif crée. Ça fait 25 ans qu'ils sont sur nos scènes, qu'ils sévissent. Un collectif vraiment bruxellois qui a vu pas mal de comédiens passer, mais avec une équipe, un noyau dur qui est là à la création. Et pour ce spectacle, le cadeau qu'a voulu offrir Transquinquennale pour son anniversaire et s'offrir également, c'est interroger c'est quoi un beau spectacle ? Parce que c'est vrai, on a pu les voir dans des bons spectacles, mais c'est quoi un beau spectacle ? Toute la question de l'esthétique qui est ici balayée à travers une série de tableaux, on peut dire comme ça, sur un plateau qui est séparé par des panneaux qui descendent, qui remontent et qui séparent ainsi l'espace de jeu de manière différente et avec un très très beau jeu aussi sur la lumière pour séparer les uns, séparer les autres. Et à quoi on assiste ? Eh bien, c'est très difficile à expliquer. Cette question d'interrogation n'est pas forcément à portée de front. C'est plutôt des références littéraires, des références artistiques, théâtrales, comiques aussi, qui nous sont apportées avec la question du beau. Est-ce que je suis belle ? Est-ce que je suis beau ? Est-ce que cette œuvre est belle ? Est-ce que cette œuvre est laide également ? Et c'est un peu, pour moi, une manière de questionner, de tirailler la dictature du beau. Parce qu'on se rend bien compte que la beauté, c'est ce qu'il y a peut-être de plus subjectif au monde. Voilà. On passe ici nos semaines à critiquer des spectacles. On parle plutôt des bons spectacles, mais le beau, ça fait partie aussi du bon. Est-ce qu'il faut absolument qu'un bon spectacle soit beau ? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui traversent le spectateur, qui va aussi être un petit peu... parfois mis mal à l'aise parce qu'il y a une petite histoire comme ça qui traverse le spectacle d'un enfant leucémique qu'on voit sur le plateau et qui est soigné. Et est-ce que tous les gestes qu'on lui procure d'affection, les témoignages d'affection, est-ce que c'est obligatoirement beau alors que c'est un drame des plus terribles qui se passe devant nous ? Donc voilà, c'est mis en miettes, c'est vraiment... c'est pas un spectacle à picorer, c'est un spectacle à penser, à réfléchir et qui nous amène sur cette question.
Qui est le propre de Transquinquennale. Hein. Ils sont un peu brechtiens, hein, sortis du conservatoire de Bruxelles, de mettre à distance un propos. Et ça ne m'étonne pas, ils ne sont pas frontales, donc c'est pas la question du spectacle beau. Mais de temps en temps, il y a un humour pince sans rire où ils nous posent ouvertement la question. Alors, est-ce que ceci fait un bon spectacle en plein milieu qui nous fait sursauter et avoir cette distanciation? J'ai le souvenir d'avoir des chiffres. Il y a des chiffres à un moment donné sur chaque objet scénique.
On a l'impression qu'on est sur une scène de crime, comme ça, où toutes les pièces qui viennent eh bien, faire avancer cette enquête du mot, mm-hmm. eh bien, sont chiffrés, évidemment, jusqu'au 41. Et ce sont soit les objets, soit les situations qui nous sont offertes durant ce spectacle qui sont ainsi numérotées. On se voit ainsi avancer, mais est-ce qu'on aura une réponse à la fin ? Je crois que ce n'est pas ça qui est le plus important, c'est évidemment les questions qui se posent. Et tu parlais d'humour, c'est vrai qu'il y a vraiment des passages très, très drôles. Bon, évidemment, ils reprennent un sketch, par exemple, de Guy Bedos et de Sophie Daumier. Mais c'est hyper drôle parce que ça, c'est quelque chose qui n'a pas trop vieilli et de l'humour des années 70, 80. Donc voilà. Mais
ils ont beaucoup de références hein, à la oui. Vénus, des choses comme ça. Moi, j'avais le souvenir, quand je l'ai vu dans le cadre de la création au Kunsten Festival, qu'il y avait une dramaturgie qui est forte, qui est là, parce qu'ils ont un travail d'une exigence qui sont remarquables. D'ailleurs, ils prennent le temps de leur création. Mm-hmm. Ils ont une exigence envers eux-mêmes, et ça, faut le reconnaître. Moi, j'ai eu l'impression que le propos ne m'était pas assez bien amené dans la questionnement. Tout était un peu large. Par exemple, l'idée des chiffres, on a un document qui nous donne à un moment donné pour avoir ces pistes, mais j'ai eu l'impression de rentrer dans le spectacle, de sortir, rentrer, sortir, mm-hmm. et de finalement dire, mais il m'emmène où ?
C'est ça. Mm-hmm. Et j'ai l'impression aussi, pour en avoir un petit peu parlé après le spectacle avec Bernard Breuse, hein, qui est un des chevilles ouvrières hein, de Transquinquennale, que ça questionne beaucoup le spectateur et sa place notamment. Il me rappelait que dans Capital Confiance, l'un de leurs précédents spectacles, mm-hmm. il questionnait le spectateur en le mettant vraiment comme un des acteurs, puisqu'à tout moment, on pouvait se lever, appuyer sur un bouton, mm-hmm. et le spectacle se terminait. Il me racontait qu'à la première, d'ailleurs, après 10 minutes, c'était fini, parce que mm-hmm. voilà, ils avaient pris ça au mot. Et ici, ça pose aussi cette question, on assiste à quoi ? C'est ça un petit peu aussi mm-hmm. la question. Est-ce qu'on assiste à un spectacle de théâtre, à une réflexion philosophique ensemble ? Est-ce qu'on est obligé de rester mm-hmm. ou pas ? Voilà, ben, c'est un petit peu tout ce qui se pose. Parce que s'il y a un enchaînement de tableaux et en effet ces chiffres qui se posent, où on se doute qu'à 41 ça va se terminer, on se dit on va arriver nulle part. Mm-hmm. C'est ça. On a juste participé à quelque chose ensemble, mais on n'est pas dans un aboutissement, un objectif précis.
Ils ont surtout, c'est un théâtre, on va dire entre guillemets, parce que ça paraît toujours une insulte, mmh. alors que ça n'est pas un théâtre intellectuel, parce mmh. qu'il y a vraiment, eux-mêmes ont une démarche. Le spectacle n'est pas donné facilement, même s'il y a le plaisir, et ça on revient à Brecht, le divertissement mmh. intelligent qui est dans le spectacle. Ils ont, on peut dire, dans le paysage théâtral, ils ont gardé leur singularité. Mmh. Et quand on voit d'où ils viennent en 25 ans, garder toujours une fraîcheur de réflexion, remettre toujours le métier sur le bilot, en travail, là je me dis c'est assez remarquable. À chaque spectacle de Transquinquennale, il y a vraiment une curiosité, ils vont nous emmener où et dans quelle réflexion. Il n'y a pas de redondance.
Ce qui est très clair, c'est qu'on voit aussi que c'est un travail collectif. On ne peut pas faire ce spectacle autrement qu'en collectif où tout le monde apporte sa pierre.
Ça a été leur création, voilà. leur raison d'être. Hein. Voilà. Eux, tu leur enlèves l'idée du collectif, voilà. ils nous tirent dessus à balles réelles. Hein.
Alors, je voudrais dire aussi, juste pour terminer, qu'il y a aussi des références. Je parlais de Guy Bedos, Sophie Daumier, parce qu'on parlait d'humour, mais il y a aussi un très joli texte qui est donné sur la chute, qui parle de la beauté de la chute, à un moment mm-hmm. donné, d'un alpiniste qui tombe comme ça. Et puis sur la peinture également, la peinture Adora, un texte de François Le Lyonnais qui nous est offert
dans ce spectacle. Qui est un moment magnifique.
Très joli et qui questionne l'art aussi.
Et puis il y a une œuvre chorale, il y a des comédiens qu'on n'avait pas vus dans Transquinquennale, mm-hmm. il y a une belle panoplie de travail. Moi c'est vraiment, il y a des spectacles comme ça où après coup, mm-hmm. on se dit on a vécu quelque chose d'intéressant. Sur le moment, moi j'ai eu des allées et des retours, donc c'est pas non plus le but, hein. C'est pas non plus le but d'aimer un spectacle tout en entier, mm-hmm. mais de se frotter en tout cas à une expérience que nous propose ici Transquinquennale avec un titre qui a l'air plat en soi, 41 pour le 41e spectacle de Transquinquennale. Ça a l'air prétentieux comme ça, mm-hmm. mais
voilà. Et pour continuer la réflexion, ils offrent un questionnaire sur la beauté à la fin du spectacle. C'est vraiment le signe que tu dis, c'est de poursuivre chez soi, de repenser à pas au tout le spectacle, à des moments comme ça, mm-hmm. des mots qui nous sont parvenus.
Ils ont réussi à aller chercher le spectateur dans tout leur spectacle sans niveler par le bas. Ils ont leurs exigences, alors qu'on est dans une société où il faut du facile et tout. Et ça, depuis le début, ils ont réussi à garder ce cap sans rien lâcher. Eux-mêmes ont une exigence et alors ils travaillent leur spectacle longtemps. Moi, je me dis, il y a un respect comme ça à ce collectif transquinquennal, qui est des spectacles qu'on aime ou on n'aime pas. Il y a vraiment une réelle démarche sur ce coup-là.
Et c'est à voir jusqu'à ce 25 octobre du côté du Théâtre Varia, 41 de transquinquennal, www.varia.be.
Autre exigence de metteur en scène avec Frédéric Dussen, et ici au ministre un texte de Victor Hugo. Il a osé encore.
Et il a osé mettre un texte de théâtre classique, hein, de théâtre romantique, Ruy Blas, comme ça, sur la scène du Théâtre de la Vie. Une toute petite scène où on est invité à rentrer en face à face avec chacun des personnages. Dans sa mise en scène, il a donc d'abord dans l'écriture, il a choisi. Il a épuré un petit peu le texte, hein, parce que Ruy Blas, ça dure quand même quelques temps, et il a réduit la distribution à 4 personnages, Ruy Blas, Don Salluste, il y a aussi César et la reine qui sont là, la reine d'Espagne, et qui vont successivement se suivre sur le plateau qui est devant nous, et nous lancer leurs répliques, comme ça, parfois des répliques très longues, c'est quasi des monologues, hein. Bon, c'est Hugo aussi, hein, c'est foisonnant, et... parfois aussi, le public est mis dans un cercle inséré dans le cercle de ces personnages qui tournent autour de nous et qui se renvoient parfois la balle dans nos dos et en face, comme ça.
Ils jouent parmi nous et on est assis sur des chaises. Hein, on n'est pas dans les gradins, il n'y a pas le plateau, la séparation plateau. Ils jouent parmi nous et ça circule.
C'est ça, c'est un théâtre qui circule. Et ce qu'a voulu faire ressortir Frédéric Dussen dans cette création et dans cette mise en scène, a priori assez sobre, c'est vraiment l'espèce de plaidoyer lancé par Hugo dans ce spectacle aux gens de pouvoir. C'est pas innocent parce qu'il a créé ça à un moment tout à fait particulier, Frédéric Dussen. Sa compagnie, l'acteur et l'écrit, s'était vu refuser
une très forte diminution de sa convention.
Et donc, c'est comme s'il s'adressait à la ministre de la culture de l'époque qui avait pris cette décision. Et on sent vraiment que c'est ce message politique, cette liberté de parole qu'il a voulu offrir comme ça, brut, sur un plateau. Il faut dire aussi que le spectacle est bien mis en bouche par les 4 comédiens qui sont là devant nous. Il y a Jérémy Siska, il y a d'autres comédiens. J'ai oublié un petit peu la distribution et je n'arrive pas à l'avoir sous les yeux là, mais en tout cas, c'est...
Dussen a l'art de faire du théâtre de chambre très raffiné, à l'essentiel sur le jeu du comédien. Hein, l'acteur, il écrit, donc on a le texte et le comédien. Et donc, il arrive à pousser les acteurs dans leur excellence. Et c'est le but d'un metteur en scène quand même, d'amener les acteurs dans une véritable mise en scène. En plus, c'est très très sobre, avec un texte qui est ardu, mais qui se reçoit pleinement, ultra engagé, ultra politique. En plus, un ancien qui nous parle d'aujourd'hui et de pouvoir. Il y avait une très belle œuvre, on peut dire, chez Dussen, sur ce coup-ci.
Sur ce coup-ci, en tout cas, oui. Moi qui ai pu voir un Ruy Blas beaucoup plus traditionnel, on retient plutôt les soubresauts de l'action. Et ici, c'est vraiment ce message politique. Parce que Victor Hugo, derrière ses tirades et ses tirades, il avait un message politique qui était là dans cette période du 19e.
Et le titre est bien choisi, « Au ministre un texte ».
C'est un des débuts de cette tirade où Ruy Blas... s'adresse au gouvernement.
C'est très très beau. Moi, j'ai le souvenir encore très vivace d'avoir à deux pas de moi des regards comme ça de comédiens.
Ah, ça nous est vraiment lancé. Hein. On est en réceptacle comme ça de cette parole.
Et en tant que citoyen comme ça dans un système, c'est une très belle œuvre. C'est un très beau théâtre de chambre à voir au Théâtre de la Vie, qui est aussi un très beau théâtre en soi. Très intime, très cocooning.
C'est à voir encore jusqu'à ce samedi au ministre intègre de Frédéric Dussen sur base du texte de Victor Hugo. www.théâtredelavie.be.
La conspiration.
On est de retour dans la conspiration des planches.
Et on vous emmène du côté de la danse. Donc toi, Nicolas, hier, tu es parti au Richclair voir le spectacle double de Nono Battesti.
Alors, qui est Nono Battesti? C'est un chorégraphe belge d'origine haïtienne qui avait déjà créé il y a quelques années le spectacle Source, où il mêlait hip-hop et accordéon. ça avait pas mal fonctionné, puisqu'ils ont fait quand même... plus de 200 représentations. Et donc, voilà, il est de retour là avec une deuxième création qui s'intitule donc Double, où il joue aussi, encore une fois, la carte de la fusion. Il a la chance d'avoir une petite sœur qui est très bonne chanteuse de soul et de gospel. Et c'est notamment sur cette musique-là qui va se fusionner de la danse beaucoup plus contemporaine que du hip-hop de base, en fait. Et le titre Double fait référence à cette histoire qui va nous être racontée de manière chorégraphique, c'est-à-dire rencontrer son double et adopter ses mouvements. C'est un jeune homme qui cherche un petit peu son ombre et qui veut jouer avec elle. Et finalement, cette ombre se matérialise. Et voilà, le couple va suivre les mêmes mouvements et parfois se séparer également pour nous offrir des solos comme ça de danse contemporaine.
Ça a l'air très poétique.
C'est très poétique. C'est dans un décor sobre avec un décor... avec des barres qui sont tendues derrière, c'est un peu comme une forêt, une jungle de bambous, comme ça, d'où vont surgir certains personnages. Mais l'intérêt aussi de ce spectacle, c'est de voir tout se créer sur scène. La danse, la musique et le chant, puisque Quentin Allois, jazzman bien connu de nos scènes, est présent également. Et Dyna B, donc, chante en direct et danse aussi avec son frère. Et il y a Juliette Coleman, donc la deuxième danseuse, principale danseuse de ce spectacle, avec Nono Battisti, qui se met en scène.
Et je me disais justement... La danse du double, hein. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas perturbant? Ça veut dire que l'un fait un geste, l'autre le répète. C'est à un moment donné, il y a ce côté d'imitation. Mm-hmm.
Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'ils adoptent le double sous plusieurs façons. Il y a le double en miroir, par exemple, il y a comme une ombre, c'est-à-dire que la danseuse est au sol et mm-hmm. lui danse. Et ce qu'elle adopte au sol, c'est les gestes du danseur, les mouvements du danseur debout, qui est là. Ça, c'est assez joli, c'est un joli moment. Et sinon, il y a aussi le duo pile poil, pas en miroir, mais vraiment l'un derrière l'autre, l'un à côté de l'autre, où on adopte vraiment la même chose. Et ce sont des mouvements, oui, en effet, qui parfois prennent au funk ou au hip-hop, comme ça, mais c'est pas de manière brutale, pas de manière frontale, on n'est pas là-dedans, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus contemporain. Ça danse beaucoup par rapport à d'autres spectacles de danse contemporaine qu'on peut voir, où c'est vraiment l'économie du mouvement, la sobriété du mouvement, pour le rendre d'autant plus important. Ici, on est dans quelque chose peut-être
de moins conceptuel,
et on nous offre du mouvement, on sent qu'il y a de la volonté de danser, de la joie de danser, ça respire la joie de vivre.
Je sens ta petite critique de certains
spectacles. C'est pas de la critique, c'est juste
de certains spectacles contemporains.
Non, parce que j'aime beaucoup parfois des spectacles de ce genre-là, mais c'est pour quand on dit danse contemporaine, ça peut aussi mettre une barrière pour certaines mm-hmm. personnes. Et ici, c'est pas du tout ça. C'est un spectacle.
C'est généreux.
C'est frais, c'est généreux. On sent qu'ils sont tous contents d'être ensemble en scène. Il y a des beaux moments d'humour également parce qu'ils travaillent sur la musique. Ils font tout un morceau rien qu'en se tapant dessus comme ça à quatre et des choses vraiment assez impressionnantes. Et c'est à voir donc du côté des Riches Clairs. www.lesrichesclairs.be.
J'en profite pour vous faire quelques annonces. Alors, dans la conspiration des planches, quand on fait des annonces, c'est pas des annonces au hasard, elles sont choisies, on le sait pourquoi, on connaît l'artiste qu'on vous propose d'aller voir. On n'a pas le temps de le voir parce que c'est 3 soirs et ça démarre généralement demain, donc c'est pour ça qu'on vous dit voilà, il y a des belles choses à prendre sur les scènes bruxelloises. Alors, directement au Brigitine, Michel Noiret danse, crée Palimpseste. Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'elle reprend, donc elle va gratter à nouveau un de ses spectacles phares qui s'appelle Solo Stockhausen. Elle a connu Stockhausen, elle a fait tout un travail avec. C'est un solo qui a été créé en 1997. Ici, elle le revisite. Elle revisite son œuvre. C'est à voir demain jusqu'à la semaine prochaine. Nous, on ira le voir et on en reparlera mercredi prochain. Autre petite perle à découvrir qui, pour moi, est un coup de cœur, c'est au Beaux-Arts. À 18h ce samedi, c'est Nassera Belhaza. Alors Nassera Belhaza, c'est une chorégraphe basée en France, d'origine algérienne. Elle est ici dans le cadre de la Soufi Night, 7e édition des Beaux-Arts, et ça lui va terriblement bien. Ici, ça s'appelle Le Trait, et qui va englober trois chorégraphes. Alors les titres sont déjà beaux, il y a Le Cercle, Le Cœur et l'Oubli, et La Nuit. Alors Nassera Belhaza dit que pour elle, un mouvement peut durer à l'infini. Et quand on voit son spectacle, on comprend. Quand on démarre un spectacle de Nassera Belhaza, on a l'impression qu'on l'a pris en plein milieu. Donc le mouvement est direct. Il y a en 30 secondes un éclairage et on est directement dans le mouvement. Alors c'est deux, généralement, elle est avec sa sœur en solo. Elles sont dans un même costume très sobre de pantalon sarouel, de jogging, tout sobre, tout noir, tout sombre. Et c'est les bras et les jambes, les bras qui bougent dans tous les sens, les jambes à peine, et puis tout doucement ça circule. Le jour où moi je l'ai vue comme ça en plein vol, c'était sur un rythme jazzy à la Nina Simone qui est très lancinant avec de la musique techno. Et on est vraiment à un moment donné hypnotisé et elle rentre elle-même en
c'est
transe.
C'est de la transe, oui. C'est donc, ce que j'allais dire.
C'est pour ça, dans le Sufi Night, ça lui va terriblement bien. Mm-hmm. Et c'est une petite heure comme ça de
y a
force.
Il y a une musique qui souligne.
Électro, ou, quand moi je l'ai vu, c'était sur du Nina Simone, très vif comme ça. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on se dit, on n'a pas vu venir la chose, tellement qu'on est pris dedans et... pas moyen de s'échapper parce que le mouvement vous prend comme un tourbillon lent, comme ça, qui, et il vous dépose à la fin du spectacle. Vous êtes plus fatigué qu'elle. Parce qu'on est vraiment, à un moment donné, on est parti dans un trip comme ça, ultra naturel, hein, dans le mouvement, sans hallucinogène. Et donc, c'est vraiment à voir Nasser Abelhaza, le trait, justement, hein, son mouvement qui peut durer à l'infini. Et là, elle a vraiment... c'est vraiment la logique quand elle dit le mouvement peut durer à l'infini, il faut le voir pour le croire. Donc ça, c'est Nasser Abelhaza, le trait à 18h. Alors dans un genre, mais beaucoup plus complètement baroque, avec fumigène, ça vient des années 80, c'est quasi les punks. Ça se passe au Kai Theater, c'est Forced Entertainment. Ils font généralement, c'est vraiment du baroque punk, vraiment sur scène. Il y a toujours des fumigènes, à chaque fois que je l'ai vu, on attend les fumigènes. Et ici, ils reprennent le grand cahier d'Agota Christophe, un bouquin fabuleux dans une trilogie, Notebook. C'est au Kai Theater. Donc, c'est l'histoire de deux gamins dans une guerre. La mère les dépose chez la grand-mère et on va voir le périple. Il faut lire la trilogie pour voir où ça vous amène, parce qu'il y a des coups de théâtre, mais monstrueux. Et l'histoire est assez crade. Moi, ça me fait toujours penser au tambour. Il y a une histoire crade de gamins lancés dans la vie, dans la nature et dans la vie qui n'est pas très glorieuse. Et ils doivent vraiment se démerder. On est en pleine guerre avec une grand-mère qui est chieuse, pas possible. C'est assez étonnant. Et c'est étonnant de voir comment les Forced Entertainment, qui font un théâtre assez pétillant, punky, comme ça, comment ils vont s'approprier ce spectacle. C'est un spectacle en anglais qui n'est pas traduit. Autre spectacle en anglais, au KVS, c'est le collectif Peeping Tom. Et eux, à chaque fois, font, c'est un peu comme Transquinquennal, très singulier. À chaque spectacle, on se demande où ils nous emmènent. Ici, c'est Vader, c'est les pères. Et alors, ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est des personnes très âgées qui vont jouer. La dernière fois que j'ai vu, il parlait de mort dans un souterrain et on était vraiment dans un terrier. Ça mélange danse et théâtre, ça mélange des comédiens de différents âges. Là, il y avait des vieux, des jeunes. Les gens rampent dans la boue, on se demande où on nous emmène. On était vraiment dans un terrier. Ici, c'est vraiment chez les pères. Et c'est plusieurs comédiens très, très âgés qui vont jouer ce Vader de Peeping Tom. Une curiosité à voir. Autre curiosité ultra ovni, mais je crois pratiquement sold out, c'est à la Monnaie. Nick Cave à la Monnaie, voilà, ça fait son effet.
Il fallait Sidi Larbi-Cherkoui pour venir mettre ça
à la
sur
chorégraphie,
scène.
Mais en même temps, on ne s'étonne pas parce Nick Cave a une poésie de ses textes.
Nicolas Lenz.
Nick Cave a une poésie de ses textes qui peut se mettre en musique. Ça nous changera un peu des vieilles opéras où l'intrigue, elles sont un peu datées. Donc là, il y a une poésie de Nick Cave mise en musique et mise en chorégraphie avec Sidi Larbi-Cherkoui. Je n'ai pas le titre du spectacle.
Shell Shock,
donc c'est à voir, mais bon, les places sont assez prises.
Et apparemment, c'est en lien aussi, puisque tu parlais de guerre, de tout ce qui se parle des psychoses et des syndromes post-traumatiques. Et c'est pour, notamment, on commémore le 100 ans de la Première Guerre mondiale, et c'est un spectacle qui fait résonance à cela, en tout cas, aux blessures de guerre.
Voilà, avec Nick Cave dans tout ça.
Alors, tu me demandais, c'est juste que c'est jusqu'au 2 novembre, donc du côté de la Monnaie, www.lamonnaie.be.
Alors, autre curiosité, au Théâtre de la Balsamine, ils sont en plein dans un premier festival qui s'appelle Les Petites Madeleines, première fois en collaboration avec le festival numérique. Et ici, on va voir, par exemple, nous, on va ce soir, on va aller voir Jean Le Pelletier, qui lui fait un théâtre dessiné, on va dire. Ça s'appelle Les Vieilles, c'est aussi demain. Ça passera après à l'atelier 210. Donc, on en reparlera. c'est un gars qui nous raconte une histoire tout en dessinant. Page blanche, fusain, donc la sobriété même. Et alors, on nous dit que c'est une fable entre un western et un conte fantastique. Et un extrait que j'ai pu dégoter dans les communiqués qu'on nous a envoyés. Tout commence le jour où le géant tatoué sur tout son corps s'étend de tout son long devant la maison. Voilà, donc on est direct dans un conte moderne, au fusain, un homme. Autre événement ce samedi, c'est Bonhomme, hein, le graffeur Vincent Globinski, qui depuis 2008 essaye de faire du graff-dance, on va dire. Alors avec un ami vidéaste, il va danser et projeter un peu des images en ligne, hein, en numérique, sur scène. Il y a aussi un concert de Joy, et alors c'est drôle parce que la Balsamine, donc c'est très un festival assez numérique dans son thème, il y a une print party. Alors le collectif s'appelle Hachure Tourneur, c'est un collectif numérique qui vont nous permettre de printer en direct des objets, des gadgets, des t-shirts, un bout d'art à soi par le numérique. Tout ça c'est au Théâtre de la Balsamine jusqu'au 25, cette semaine encore.
Et c'est ici que se termine la conspiration des planches. Merci Nurten et à la semaine prochaine pour d'autres spectacles. Les podcasts sont enfin arrivés sur notre site www.demandezprogramme.be et toutes les infos sur radiocampus.be. Bonne semaine.
À la semaine prochaine. La conspiration.